Peut-être pensez-vous qu'une fois marié, le couple est solide comme un roc et qu'il est inutile d'y passer trop de temps. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mais croyez-moi, c'est difficile. Est-ce que je suis pessimiste ? Non, réaliste. Nos vies quotidiennes sont remplies d'activités et de passions qui peuvent faire courir de grands risques aux amoureux. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et après une première saison consacrée à la préparation au mariage, nous sommes ravis de vous accueillir dans la saison 2 du podcast « Se marier et durer » consacré à la vie des vrais couples.
Dans ce podcast, nous rencontrons le père Pierre-Marie Castaignos, serviteur de Jésus et de Marie et accompagnateur de couples depuis plus de 20 ans, pour aborder les sujets qui peuvent fragiliser ou consolider l'amour. Cette mini-série aborde la vie professionnelle. Avec plus de 40 années passées à travailler, c'est l'essentiel de la vie du couple qui est rythmé autour d'elle. Dans ce deuxième épisode, nous verrons que lorsque l'on parvient à protéger son couple, la vie professionnelle peut être un lieu dans lequel les conjoints peuvent apprendre à toujours davantage s'aimer. Je vous laisse découvrir cela dans l'épisode. Bonjour mon père.
Bonjour Aurélie, bonjour Joseph.
Alors, on a vu que la vie professionnelle était un temps qui était impressionnant dans notre vie, dans notre vie de couple a fortiori. Elle a beaucoup de dangers, beaucoup de risques, mais dans un certain nombre de cas, la vie professionnelle peut aussi être un lieu positif pour le couple, un lieu dans lequel le couple en fait approfondit son amour et s'enracine encore plus. Alors pour cela, il y a évidemment un discernement à faire sur beaucoup de décisions. Est-ce que vous pourriez nous dire, à votre sens, quel est le principal critère à avoir dans toutes les décisions qui touchent au couple et notamment dans la vie professionnelle?
Alors, concernant la vie professionnelle ou les décisions en général, ça peut être des décisions financières, des décisions de déménagement, de réorientation, etc. Est-ce que ça nous rapproche l'un de l'autre? Est-ce que ça nous éloigne l'un de l'autre? Est-ce que c'est la commune? Moi, j'aime beaucoup un document qu'a écrit Jean-Paul II sur la spiritualité de communion. Il dit vraiment, avant d'envisager n'importe quel projet concret, assurons-nous que nous sommes en communion. Et il dit, l'Église, c'est la maison et l'école de la communion. La maison pour moi, ça veut dire protéger, ça veut dire protéger des intempéries, protéger des personnes de la sécurité, etc. Et école, ça veut dire pédagogie, c'est-à-dire que je fais de mon couple une pédagogie. Ça s'oppose à ce que l'on connaît tous, c'est cette forme d'individualisme qui frappe beaucoup nos sociétés occidentales, ou le chacun pour soi, etc., qui va faire qu'on va s'éloigner d'eux. Alors qu'au contraire, si j'ai la spiritualité de communion est au cœur de notre vie, et que l'on fait du couple une pédagogie, et que l'on prend les décisions pour protéger donc la maison que l'on a construite, eh bien, je crois que il n'y a pas de raison que le travail menace votre vie de couple.
Justement, sur cette notion de travail, donc, le travail, il fait vraiment partie des composantes de la dignité de la personne, comme le rappelle régulièrement le pape François. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui n'ont pas de métier rémunéré, qu'il s'agisse d'un choix, comme des parents qui décident de s'occuper de leurs enfants, ou au contraire d'un non-choix, comme les personnes en recherche d'emploi? Comment est-ce que le conjoint peut accompagner ces situations?
Alors, c'est un point qui est important parce que je trouve qu'aujourd'hui, on donne une importance trop grande à la dimension du travail, de ce point de vue-là, en termes de reconnaissance. C'est vrai que pour X ou Y raison, l'un ou l'autre peut arrêter de travailler pour éduquer les enfants pendant une partie de sa vie, ou alors peut préférer un engagement associatif, ou alors être en recherche d'emploi, etc. Derrière ça, c'est quelle reconnaissance j'ai du travail, par exemple, de celui qui a arrêté de travailler ou celui ou celle qui a arrêté de travailler ou qui s'est mis en pause pour une raison ou une autre pour éduquer les enfants, etc. Est-ce que j'ai une reconnaissance envers lui? Est-ce que je valorise le don qu'il fait de lui-même? C'est différent entre arrêter de travailler pour l'éducation des enfants que la question du chômage. Mais derrière ça, il y a l'idée d'une auto-estime. Derrière ça, il y a l'idée d'une certaine fierté de l'autre qui peut ne plus être au rendez-vous parce que que précisément dans nos sociétés, on ne valorise que la dimension professionnelle. Et vous voyez dans les dîners qu'on soit entre amis, que ce soit dans les pots, oh, tu fais quoi, etc. Tu dis, je suis à la maison pour. Bon, ben, allez, hop, oh, suivant. C'est fini. Et ça, je trouve que c'est pas bon. Parce que ça dévalorise ceux qui ont fait d'autres choix, comme s'il n'y avait qu'un seul choix, le fait d'être productif, et que ne me fait exister que par ma vie professionnelle. C'est comme ça qu'on arrive à des burn-out, parce que des gens qui n'existent que par leur vie professionnelle. Et c'est pour ça que parfois on arrive à des séparations, je ne sais pas si on en parlera dans le podcast, au moment de la retraite, où la vie professionnelle n'est plus au rendez-vous, où les enfants sont partis, etc. Et on voit des couples qui se séparent parce qu'ils n'ont vécu qu'à l'aune de leur vie professionnelle. Donc je crois que c'est important, la question de la reconnaissance de l'autre. Le chômage, c'est un autre point, mais qui tient aussi à la reconnaissance. Est-ce que dans cette période qui est difficile, on sait que rechercher un emploi, c'est aussi un emploi, est-ce que je garde une certaine valorisation de l'autre ? Est-ce que je le... je me souviens, je vous donne un exemple. Un couple, le papa ingénieur de formation, etc., au chômage. Et la petite fille dit, mais papa, est-ce qu'il est toujours ingénieur ? Parce qu'il ne va plus travailler. Et puis bon, et donc il a fallu que... Je crois que c'est beaucoup, là, c'était l'épouse en tout cas, qui a joué un rôle de motivation, de valorisation, de on est avec toi, on est, parce qu'il peut très bien y avoir un effet inverse, au contraire, de dévalorisation qui ne fait qu'augmenter, au fond, le manque de confiance que la personne peut avoir en elle.
Alors, vous avez pointé du doigt le piège de la survalorisation de l'activité professionnelle, donc dans l'image qu'on renvoie aux autres et aussi du coup dans les choix qu'on fait. Mais en fait, je pense que ce risque de survalorisation de l'image, elle peut aussi être présente à l'intérieur du couple. Et on voulait aborder avec vous la notion de fierté du métier de l'autre. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'il est nécessaire, d'abord, d'être fier du métier de son mari ou de sa femme, dans un premier temps ? Mais dans quelle mesure est-ce que ça ne peut pas aussi être un peu dangereux ? Enfin, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre aussi sur ça ?
Je suis fier d'abord de la personne de l'autre. Cette personne de l'autre, qu'elle exerce tel métier, j'aime la personne de l'autre. Et c'est d'abord ça, c'est cet attachement à ce que tu es toi qui fait que je me suis engagé. Parce qu'on sait très bien, arrivent les accidents de la vie, etc., des problèmes de santé qui font que l'autre ne peut plus rester dans son travail. Si j'étais fier, si j'étais fier que parce que ce que tu fais, mais pas parce que tu es, eh bien, du coup, il y a quelque chose. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout à suivre. C'est l'exemple du Duce. Le Duce, donc Mussolini, qui avait des maîtresses. Une maîtresse, en tout cas. Et donc, il avait sa femme. Bon, voilà. Et puis, il avait sa maîtresse. Mais au moment où les Américains débarquent, etc., en Italie, etc., la libération, et on dit à cette femme, écoutez, si vous voulez, on peut très bien vous trouver un vol pour l'Argentine, etc. Vous faire... Elle dit non. Je l'ai aimé dans la vie, je l'aimerai dans la mort. C'est-à-dire que... Et ils ont été fusillés les deux ensemble. Donc c'est intéressant de voir que, même si l'exemple a ses limites, mais d'une certaine manière, elle était attachée à l'image, à la personne même du Duce, cette femme-là, et non pas parce que c'était le Duce. C'est parce que je ne suis pas attaché à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Et donc, on a un peu le qu'on entend parfois entre faire et être. C'est ta personne même à laquelle que j'aime. Que tu sois coiffeur, dentiste ou ingénieur, bon, à la limite, bon, c'est ta vie première, c'est ce que tu es, ta capacité d'aimer, ta capacité de sourire, la capacité de te préoccuper de ce qui fait ta personne. C'est ça qui est, et je crois que c'est qu'on place le curseur là-dessus, et j'allais dire, dès le début de la vie de couple. Je me souviens comme ça d'un couple, lui militaire. Et comme ça se passe beaucoup, vers la quarantaine, ils partent dans le civil, crise matrimoniale. Et l'épouse, en fait, s'est rendue compte qu'elle avait épousé les galons. Elle n'avait pas épousé celui qui est sous les galons. Et à un moment donné, il a fallu qu'il y ait un nouveau choix. Je te choisis parce que c'est toi, ta personne même qui m'intéresse et dont je suis fier. Donc, c'est là aussi, attention de mettre le curseur au bon endroit.
J'aimerais venir sur la notion de sacrifice. Je m'explique. Quels sont les éléments en fait qu'il faut prendre en compte avant que l'un ou l'autre des membres du couple décide de faire un sacrifice professionnel ou personnel ? en fait, pour que ce sacrifice ne devienne pas une source de frustration, en fait.
Alors déjà, c'est assez vaste comme question. Est-ce que c'est un sacrifice qui a à voir avec le niveau de vie, par exemple ? Est-ce que c'est un sacrifice qui a à voir avec l'éducation des enfants ? Est-ce que c'est un sacrifice... L'idée, c'est que, premièrement, rappelons-nous que notre vie est aussi faite de frustration. On est, beaucoup peut-être avec le développement personnel, mais dans une sorte de culture de l'épanouissement maximum. Or, la réalité de notre vie humaine, c'est que s'il y a des choses que l'on n'atteint pas, il y a des choses qui ne sont pas au rendez-vous, que l'on aurait souhaité. Comment je les vis ? Est-ce que je les vis comme un lieu de don et d'amour de l'autre ? Ou est-ce que dans une rumination et une frustration ? Voilà, je pense que notre vie chrétienne aussi offre un regard sur ce qu'on ne peut pas accomplir, sur le manque au fond, sur le manque, sur la limite. Derrière ça, il y a l'idée de manque de limite. Est-ce que ce manque de limite, je le vois comme une menace ? Ou alors je le vois comme un lieu de construction du couple ? C'est-à-dire que parce que moi aussi, j'ai mes limites, j'ai mes manques, etc. Donc, moi, je me dis, bon, oui, il y a parfois des sacrifices à faire, mais que, en tout cas, une chose qui n'est jamais à sacrifier, c'est la qualité de lien. Ça, c'est jamais à sacrifier. Parce que là on n'est pas dans le bon sacrifice. On n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans le bon compromis. Parce que si on peut sacrifier son niveau de vie, on peut parfois sacrifier ses loisirs, on peut sacrifier, bon, mettre en. Mais que la qualité de lien, si on commence à toucher à ça, et si la décision commence à toucher à la qualité de la relation, eh bien là, il y a un warning qui s'allume et il faut vraiment se poser, quoi.
Par exemple ?
Par exemple, vous avez décidé de faire un emprunt pour acheter une maison. Et donc, là-dessus, vous avez pris la décision avec vos deux salaires. Vous avez pris la décision avec vos deux salaires, etc. Et en fait, vous vous apercevez, en fait, c'est une course en avant. C'est une course en avant, c'est fait que cette maison, ça devient un poids. Cette maison, ça devient... On pensait que c'était un lieu qui allait abriter notre amour, notre famille, etc. Mais cette maison, ça devient un poids. Ça devient un lieu, au contraire, ça devient une sorte d'esclavage. Et donc, oui, je fais des sacrifices. Je me dis, ah ben, je fais des sacrifices pour ma famille. Mais finalement, on ne se voit plus. On ne partage plus. On ne parle que de ça. On ne parle que parce qu'on est trop juste à la fin du mois. Et donc, vous voyez, donc, là, c'est un sacrifice, mais qui ne va pas dans la bonne décision, dans le bon sens.
Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on fait une fois que le mal est fait ?
Ah !
Parce que typiquement, cet exemple d'emprunt, ça concerne quand même pas mal de gens. On se dit, bon, allez, on a deux salaires. On regarde mal la différence entre le brut et le net. Ou alors, on sous-valorise un peu son rythme de vie actuel ou futur. Et on se rend compte assez rapidement qu'au bout de 6 mois, 1 an, eh bien, on est vraiment ric-rac à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait ?
Et ric-rac à la fin du mois qui engendre des tensions.
Je pense
qu'il faut rajouter ça.
Oui,
c'est ça. Ric-rac à la fin du mois, bon,
oui,
si ça, s'il n'y a pas de tension, bon, très bien. Mais c'est des ric-rac à la fin du mois qui engendrent des tensions. Des tensions qui veulent dire aussi des accusations, d'une culpabilité de l'un par l'autre. Ah, mais c'est toi qui as voulu forcer pour qu'on achète la maison. Oui, ensuite, que le attention au tu qui tue. C'est-à-dire que, attention, on tombe dans une forme d'accusation réciproque. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a du mal à vivre un certain nombre de choses ensemble. Et que donc, parce qu'on a du mal, ben, du coup, on s'accuse l'un l'autre. Maintenant, en fait, ce n'était pas vraiment ma décision. Mais tu m'as tordu le bras, tu m'as forcé, tu m'as etc. etc. Et en fait, derrière ça, en amont, on arrive toujours à la même question. Est-ce que ça a été une décision à deux ou c'est une décision seule ? Est-ce que ça a été une décision vraiment du couple ou aussi de la famille ou aussi de la compagnie ? Ah ben non, ben ma sœur vient de s'acheter une maison avec son mari, etc. Et nous, on est toujours dans une location d'appartement, etc. Vous voyez, des comparaisons comme ça qui sont souvent dans les familles. Ou si ce n'est pas vous qui vous comparez, c'est peut-être les parents qui vous comparent. Ah ben ta sœur, elle a fait un bel investissement, hein, bravo. Hein, dans le regard de ses propres parents, on est valorisé. Et donc, si je ne suis pas valorisé alors que ma sœur, mon beau frère le sont, ben on se pose... Du coup, derrière ça, je trouve que c'est se reposer la question. Une maison, ça se vend. Une maison, des emprunts, et en la vendant... Il y a aussi l'humilité. L'humilité de dire, et qui est profondément, une valeur profondément chrétienne, l'humilité de dire, on a pu faire un mauvais choix. Et du coup, on fait une relecture de ce choix, C'est important de faire des relectures régulières de sa vie de couple et des choix que l'on a posés. Il y a quelques grands choix qu'on pose dans une vie de couple, au niveau matériel en tout cas. Bon, la maison, c'en est un des choix. Ben, on peut se dire, ben, oui, finalement, on est rentré dans un tunnel. On ne se voit plus. C'est les enfants, ils voient la nounou, ensuite ils voient la babysitter et on arrive à 23h. On n'éduque plus nos enfants, on ne les voit pas grandir, etc. etc. Donc, y en a qui ont une forme de prise de conscience. À un moment donné, il faut une prise. Parce que parfois, on n'arrive pas à se rendre compte. Encore une fois, si on est dans un tunnel, dans un toboggan, plus qu'un tunnel, c'est un toboggan. Et puis, on dit, ben, en fait, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut que j'honore les traites, les échéances, etc. etc. Ouais, en fait, si, il y a toujours une autre solution. En matière matérielle, il y a une autre solution. Donc, n'accusons pas l'extérieur de décisions qu'on aurait pu prendre à l'intérieur du couple.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et justement, ça me permet de faire le lien avec le sujet suivant qu'on voulait aborder, qui était un petit peu comment est-ce que dans le couple, on peut être on peut être aussi dans un rôle de partenariat et être un vrai sparring partner quelque part pour l'autre lorsqu'il y a une décision professionnelle à prendre. Alors, il y a évidemment les cas qui paraissent être des bonnes nouvelles de promotion. Quel est le rôle du conjoint lorsqu'une promotion est proposée, par exemple ?
Le rôle du conjoint, c'est d'inviter à la réflexion. Le rôle du conjoint, c'est de dire, ben, écoute, est-ce que tu es sûr que c'est on te propose. Il y a des promotions qui sont des fausses bonnes nouvelles. Parce que ça demandera parfois un célibat géographique, parce que ça demandera. Je me souviens comme ça, par exemple, d'un quelqu'un qui était dans l'armée, etc., qui avait au niveau de l'OTAN une promotion, ça fait déjà plusieurs années. Et la vie, il était tellement valorisé dans son travail que quand il rentrait chez lui, il avait l'impression de perdre son temps. Et ça peut arriver. Parce qu'il avait des enjeux, on le mettait un peu en haut de l'affiche, etc. Parce qu'il faisait un bon travail aussi, c'était mérité, c'était pas juste pour plaire ou avoir ses faveurs ou que sais-je. Parce qu'il a un vrai. Mais du coup, le point d'équilibre, attention, j'allais dire, aux forces centrifuges par rapport au couple et à la famille. C'est-à-dire que, attention, à un moment donné, on se dit, tiens, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est à l'extérieur. Et donc, alors que ce soit. Donc, on se pose, on dit, comment est-ce qu'on peut retrouver de l'intérêt à l'intérieur ?
Et c'est le cas pour la vie professionnelle, mais en fait pour tout ce qui est à l'extérieur du couple. Et
tout ce qui est à l'extérieur du couple peut être nous déséquilibrer en termes de point d'équilibre. Voilà, si le point d'équilibre n'est pas dans le couple et la famille, il est à l'extérieur. Du coup, c'est des forces centrifuges et qui peuvent vraiment emmener les conjoints loin l'un de l'autre.
Alors, pour terminer sur une note positive, ce deuxième épisode, donc le travail peut quand même être le lieu d'une complicité intellectuelle aussi très forte, et donc où l'amitié du couple entre les conjoints augmente.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, avec l'expérience encore une fois que vous avez, comment est-ce que vous avez pu voir aussi le travail comme un lieu de ressources ?
Alors, je l'ai vu de plusieurs manières, mais c'est un lieu de partage. Le fait de ne pas vivre la même chose ensemble fait qu'on a des choses aussi à se raconter. Donc, et du coup, on se stimule l'un l'autre. Du coup, mais faut-il encore avoir des temps de partage, hein, ce dont on a parlé jusqu'au début depuis le début du podcast. Mais du coup, ça fait partie du partage que j'ai. Le travail ne fait pas partie de mon jardin secret, par exemple. Je trouverais ça pas du tout. Au contraire, c'est un lieu où je m'intéresse au travail de l'autre. Et si, par exemple, on évoquait le fait d'être survalorisé dans son travail par rapport à sa vie de couple, c'est que peut-être l'autre ne s'intéresse pas assez. Donc, prenons au contraire de dire, ben, c'est un lieu de communion, le travail, parce que je m'intéresse à ce que tu fais, je te félicite, je dis combien je suis fier de toi, combien je vois que tu fais du bien. Ben, du coup, ça ramène, au fond, on remet l'église au centre du village, de certaine manière, ça ramène le point d'équilibre dans le couple.
Merci beaucoup, mon père.
Un grand merci à vous deux.
L'épisode que vous venez d'entendre fait partie d'un podcast consacré au couple et au mariage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Quant à nous, nous vous retrouvons sans attendre pour le prochain épisode de cette mini-série sur la vie pro. À très vite.